14h10 ici à Paris. Tout de suite, Juliette Jacquemin pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Merci Jeanne Bartoli, on vous retrouve à 14h30. Et bonjour à tous. Au sommaire de ce rendez-vous aujourd'hui, le monde de la gymnastique américaine secoué par ce gigantesque scandale de pédophilie. C'est un journal local qui a révélé ces abus qui concerneraient des centaines de jeunes athlètes. Envoyer des cadeaux de Noël aux enfants haïtiens, c'était l'objet de la collecte organisée par l'ambassade haïtienne à Paris. Vous entendrez la responsable de cette opération. Mais tout de suite, on se penche sur la presse des Amériques. La revue de presse est avec Véronique Guémard. Bonjour Véronique.
Bonjour Juliette.
Dans la presse américaine, cet article du New York Times sur l'adoption à l'ONU d'une résolution qui appelle Israël à cesser les colonisations.
Mais pendant des années, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a joué un double jeu, écrit le New York Times. D'un côté, il faisait concurrence à ses rivaux d'extrême droite en soutenant les projets de construction de colonies dans les territoires palestiniens occupés. Et de l'autre, il appelait à une solution à deux États avec les Palestiniens. Selon le journal, le leader d'extrême droite, Naftali Bennett, qui encourage les constructions et l'annexion des territoires palestiniens, pousse le Premier ministre à prendre des positions extrêmes. Et cette fois, avec l'adoption à l'unanimité des voix, grâce à l'absence de veto américain, d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU condamnant ces constructions de colonies, Benjamin Netanyahou devra choisir son camp, estime le professeur de sciences politiques Shlomo Aveni, cité dans cet article.
Toujours aux États-Unis, une nouvelle nomination par Donald Trump fait couler beaucoup d'encre, celle d'un autre milliardaire, Carl Icahn, comme conseiller sur la régulation.
Effectivement, à 80 ans, le nouveau conseiller de Trump, Carl Icahn, en connaît un rayon sur les régulations fédérales et le milieu des affaires. Avec son expérience dans le contrôle total ou partiel de Phillips Petroleum ou d'American Raycar Industries, reconnaît l'éditorialiste du Washington Post. Mais que son expérience en fasse un conseiller idéal pour la réforme sur la régulation, ce n'est pas si évident, estime le quotidien. L'administration Obama fait pencher la balance vers davantage de régulation et il serait judicieux de lâcher du lest pour aider l'économie qui, soit dit en passant, se porte plutôt bien, fait remarquer le Washington Post. Mais les accusations de Carl Icahn contre toutes les agences de régulation, surtout financières et environnementales, pourraient mener Donald Trump à prendre un virage à 180 degrés. Le Washington Post estime que ni Trump ni Icahn ne semblent prévoir les problèmes éthiques évidents qu'ils vont créer pour la prochaine administration.
Cela dit, Donald Trump, qui semble faire marche arrière sur un sujet polémique, sa fondation philanthropique, après avoir longtemps refusé de le faire, il annonce finalement qu'il a l'intention de la dissoudre pour éviter les conflits d'intérêts. Écoutez les explications de Marie Bourreau.
Il y a 10 jours, Donald Trump avait promis une grande conférence de presse pour rassurer le public sur les potentiels conflits d'intérêts entre ses multiples entreprises et son nouveau rôle de président des États-Unis. Mais les choses s'avèrent beaucoup plus compliquées que prévu et la rencontre avec la presse a finalement été reportée sine die. Des batteries d'avocats travaillent actuellement auprès de la famille Trump pour mettre un terme aux gros contrats internationaux en cours et trouver à qui confier les rênes de l'empire immobilier de la Trump Organization. Après avoir longtemps nié tout conflit d'intérêts, Donald Trump semble donc prendre la mesure des problèmes et controverses qui l'attendent le 21 janvier prochain. Il a donc fait un premier pas samedi 24 décembre en annonçant la dissolution de sa fondation caritative, sauf que celle-ci est inactive depuis plusieurs semaines et fait l'objet d'une enquête par le procureur de l'État de New York pour n'être pas officiellement déclarée comme œuvre caritative. Il faudra donc attendre que l'enquête soit close avant de pouvoir officiellement fermer cette fondation. Pour éliminer tout soupçon d'intérêt, des experts ont conseillé à Donald Trump de liquider son entreprise et de placer tout son argent dans un organisme indépendant de gestion d'actifs. Mais le président le plus riche de l'histoire des États-Unis s'y est pour l'instant toujours refusé, jugeant l'idée déraisonnable. Marie Bourreau, New York RFI.
On tourne la page de l'actualité des États-Unis et on se rend au Mexique, Véronique. La compagnie aérienne mexicaine Interjet annonce en effet la révision de tous ses appareils de fabrication russe.
Oui, c'est ce qu'annonce le quotidien mexicain Milenio. En fait, cette révision a été exigée par le constructeur russe lui-même après avoir découvert des problèmes sur les équipements Superjet 100 de la compagnie Aeroflot. Ceci n'a aucun rapport avec l'accident du Tupolev 154 au départ de Sochi ce dimanche, qui a coûté la vie à 92 personnes, dont 64 membres des célèbres cœurs de l'armée rouge qui se rendaient sur une base militaire russe pour fêter le nouvel an avec les soldats russes. La compagnie mexicaine Interjet a commandé 30 appareils Superjet 100, dont une douzaine ont déjà été livrés pour des trajets de courte distance, essentiellement pour assurer des vols intérieurs.
La région du sud du Chili, cette fois au sud de l'île de Chiloé, a vécu ce dimanche le tremblement de terre le plus puissant depuis 1960.
C'était le tremblement de terre de Noël, titre El Yanquiwe, un quotidien régional qui évoque des dizaines de répliques. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ONEMI, a déclenché l'alerte au tsunami, un instrument amélioré depuis la catastrophe qui avait ravagé la région de Concepción en 2010, indique La Tercera. Il a ordonné l'évacuation de 13 000 personnes de la région qui ont pu regagner leur foyer progressivement. Le séisme de 7,6 sur l'échelle de Richter n'a pas fait de victimes mais a causé d'importants dégâts, indique le journal dont le site montre des photos de maisons soulevées, des bâtiments effondrés, de routes dont le bitume est craquelé, soulevé ou qui a tout simplement disparu dans les entrailles d'une faille.
Et puis un site d'information officiel cubain revient sur cette annonce, celle de résultats encourageants d'un vaccin d'origine canadienne contre le virus Ebola.
Est-ce la fin d'Ebola, se demande Cuba Debate. Jeudi dernier, la revue spécialisée de Lancet annonçait les résultats encourageants de ce nouveau vaccin élaboré dans un laboratoire canadien qui pourrait être efficace à 100% selon l'Organisation mondiale de la santé. Les tests ont commencé en mars 2015 sur plus de 11 000 personnes, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire pour qu'ils soient commercialisés. Est-ce le début de la fin d'Ebola ? On peut le penser, en tout cas grâce à ce vaccin prometteur. On peut effectivement penser que ce virus sera éradiqué dans un futur proche, conclut Cuba Debate.
Et puis évidemment Véronique, ce qui fait aujourd'hui la une de toute la presse du continent, c'est bien sûr la mort du chanteur britannique George Michael à l'âge de 53 ans. Il faut dire que l'ancien membre des Wham était très populaire sur le continent américain dans les années 80 notamment. Voilà, Last Christmas de George Michael pour refermer cette revue de presse. Merci Véronique Guémard d'avoir été avec nous. Un scandale de pédophilie, plusieurs centaines d'enfants abusés et un journal local à l'origine de ces révélations. L'histoire rappelle celle des journalistes du Boston Globe qui avaient mis au jour une affaire similaire au sein de l'église catholique au début des années 2000. Et bien cette fois-ci, c'est le monde de la gymnastique qui est touché. D'après The Indianapolis Star, des centaines de jeunes gymnastes ont été abusés sexuellement pendant des années. Mise en cause, particulièrement USA Gymnastics, l'organisme qui gère la discipline dans le pays. Il est accusé d'avoir toujours passé ses actes sous silence. Camille Marigot.
C'est dans les années 70, quand Charmaine Cairns avait 8 ans, que le calvaire a commencé pour elle et ses camarades de gymnastique. Dans leur club de Pasadena, en Californie, leur jeune entraîneur Doug Boger se conduit, dit-elle, comme un prédateur.
La première fois que je suis venue au club, il m'a mise en confiance. C'était mon entraîneur, il m'accompagnait dans tous mes mouvements. Et on répétait des exercices très dangereux. S'il n'était pas là pour nous tenir ou nous réceptionner, nous pouvions mourir. Donc il a commencé comme ça, à toucher mes parties intimes. Et puis notre relation a grandi, ma confiance en lui a grandi et ses abus aussi.
30 ans plus tard, en 2009, elle et d'autres victimes écrivent à Steve Penny, le président de USA Gymnastics. Doug Boger travaille alors toujours dans l'un des clubs affiliés à la fédération, Charmaine Cairns.
Ils ont mis des années avant de commencer à enquêter officiellement. Pendant tout ce temps, ils ont récolté des données et on recevait parfois un mail ou un coup de téléphone rapide. Ce n'est pas que dans leur tête, on mentait. Non, je pense qu'ils nous croyaient. Mais ça n'était pas une urgence en tout cas. Et j'ai trouvé ça humiliant.
Doug Boger sera même élu entraîneur de l'année quelques mois après leur alerte. 2 ans plus tard, il est enfin banni de la fédération mais continue à travailler dans des clubs qui n'en font pas partie et à nier les faits. Le silence de la fédération et de certains propriétaires de clubs s'explique par la peur de perdre leur réputation dans un sport où les États-Unis excellent. Marc Alesia est l'un des journalistes qui a participé à cette enquête.
Ces clubs font aussi de l'argent avec leur activité. Ce sont de petites entreprises locales et leurs propriétaires ne veulent pas d'histoires d'abus sexuels qui menaceraient leur chiffre d'affaires. On a donc constaté pendant notre enquête que dans certains cas, ils disent seulement à ces entraîneurs de quitter leur poste, de partir, peu importe où, mais sans les renvoyer, ni même avertir les futurs employeurs.
Les propriétaires de clubs ont aussi peur de se retrouver eux-mêmes devant la justice et préfèrent donc garder le silence sur les crimes de leurs entraîneurs. Même si les pratiques du USA Gymnastics s'améliorent avec la publication des noms d'entraîneurs impliqués et des enquêtes internes, cela ne suffit pas. Nancy Ogshed-Makar est présidente de Champion Women, une organisation de défense des femmes dans le sport.
Le seul moyen d'arriver à lutter contre tout cela, c'est de mettre en place une loi qui oblige le comité olympique à enquêter et à sanctionner les coupables. On a fait la même chose avec le dopage, en créant l'Agence mondiale antidopage. Puis les États-Unis ont eu leur propre agence, complètement indépendante du comité olympique.
Au total, 368 cas d'abus sexuels en 20 ans ont été révélés par l'enquête de l'Indianapolis Star. Mais selon les journalistes et les avocats saisis du dossier, il pourrait y avoir 3 à 5 fois plus de victimes.
Camille Marigot, ce week-end, c'était bien sûr celui des vœux de Noël des différents présidents. Barack Obama a adressé son dernier message de Noël en tant que président. Il s'est voulu rassembleur envers toute la nation. Vœux aussi du président colombien, Juan Manuel Santos, couronné de son prix Nobel de la paix cette année pour avoir signé la paix avec les FARC. Il l'a souligné lors de son message à la nation. Juan Manuel Santos.
Este año en Navidad.
Cette année, le cadeau de Noël des Colombiens est la paix, maintenant que nous avons laissé derrière plus de 50 ans de conflit. Pour la première fois, dans des millions de foyers, il n'y a pas une mère craignant pour la vie de son enfant, pas d'enfant se demandant si leurs parents rentrent chez eux à cause des conflits armés avec les FARC. Tout ça, c'est le passé. Avec la paix, les déplacés par la violence peuvent retourner dans leur maison pour célébrer les fêtes de Noël dans la joie.
Con felicidad las fiestas navideñas.
Le président colombien Juan Manuel Santos. Alors cette semaine de fête a une résonance particulière, cette fois-ci en Haïti. Après une année très chaotique sur l'île entre chaos politique et passage de l'ouragan Matthew, alors c'est pour ne pas oublier le Noël des enfants haïtiens que l'ambassade d'Haïti en France a lancé un appel aux dons. Elle a réuni plusieurs centaines de cadeaux qui s'envoleront dès demain pour être distribués aux enfants sur l'île. Benjamin Delisle a rencontré Anne-Louise Mésadieu de l'ambassade haïtienne.
L'opération 1000 cadeaux vise à faire vivre un Noël plus joyeux aux enfants haïtiens les plus démunis. Depuis 2 semaines, Anne-Louise Mésadieu reçoit des cadeaux de toutes parts. L'idée est née de ses souvenirs d'enfant.
Je suis moi-même mère hein, et j'ai été comme nous tous enfants et je me suis souvenue du sourire que j'avais petite quand je découvrais mon cadeau de Noël. Et à partir de là, suite aux ouragans notamment qui ont affecté et touché ma terre natale, j'ai commencé la mobilisation par un texto dans mon répertoire entre amis. Les amis ont répondu favorablement, ont redispatché ce texto, après quoi j'ai mis également sur Facebook. Et nous sommes en période de fête, il y a un brin de solidarité qui nous anime tous et c'est en ce sens que je tenais à mettre en place cette petite opération. Je l'ai commencée il y a très peu, mais elle prend et je suis assez ravie.
Dans le bureau d'Anne-Louise Mésadieu sont empilés de nombreux jeux de société, mais aussi des poupées ou des petites voitures. Des jouets, elle en reçoit au travail mais aussi chez elle. Les donateurs lui apportent souvent en main propre là où elle se trouve. Parmi eux, Bertie et Dionel est professeur de guitare à Paris. Il a fait le déplacement jusqu'à l'ambassade.
À la minute même où j'ai reçu le message de la part d'Anne-Louise Mésadieu, j'ai acheté une Barbie et puis une voiture électrique.
Comme lui, beaucoup de membres de la communauté haïtienne et d'ailleurs se sont mobilisés à l'appel d'Anne-Louise Mésadieu.
Des amis d'Haïti, des collègues de travail, des voisins, parce que j'ai mis sur Facebook, donc c'est vrai qu'il y a un relais, des amis de mon fils qui a 11 ans, des jeunes haïtiens ou originaires d'Haïti de la communauté haïtienne, des artistes, pléthore d'artistes haïtiens se sont mobilisés. C'est vrai que je suis très touchée par leurs gestes, par leur engouement. Donc les jouets viennent de partout, de partout.
C'est elle qui va se charger de distribuer les objets récoltés en France lors d'un voyage en Haïti.
Je pars, si tout va bien, le 27. J'envisage d'aller les distribuer à Ile-la-Vache, enfin moi personnellement, ou Bello directement. Bello qui est un ami, un artiste que j'apprécie énormément, qui fait un travail également en Haïti parce que tous les ans, il va distribuer des cadeaux à des enfants à Ilavache, non seulement orphelin, mais également handicapé. C'est en ce sens que je tenais à l'aider, parce que je trouvais que son travail était remarquable et noble. Et également aller au Gonaïve, le 30, distribuer au Gonaïve, parce que c'est très symbolique pour Haïti, c'est la terre de l'indépendance.
En plus de recevoir des cadeaux, les enfants pourront assister à un concert de Bello, mais aussi d'autres artistes. Les parents seront également invités à partager un goûter de Noël, un Noël difficile pour beaucoup d'Haïtiens.
C'est vrai que Haïti a connu, connaît, hélas, des moments très très durs. Les enfants ne mangeront peut-être pas tout ce qu'ils auraient voulu manger, mais l'esprit de Noël sera là. Bello me disait que la situation est alarmante dans le sens où les années précédentes, il recevait beaucoup plus de cadeaux, d'aide que cette année. Il faut dire que la conjoncture, la crise économique est hélas présente, mais je suis sûre que l'esprit de Noël planera sur tous les Haïtiens. Et puis voilà.
Air Caraïbes s'associe à l'opération en offrant l'excédent de bagages pour transporter les jouets.
Un dossier signé Benjamin Delisle.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Edwige Saint-Thomas.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
En cette période de fête, la question de la sécurité reste d'actualité aux Antilles.
Oui, c'est le cas tout d'abord en Martinique où on constate une recrudescence des vols dans les supermarchés notamment. Tous les produits sont concernés, mais ce sont surtout les bouteilles d'alcool qui sont les plus visées. Le témoignage de Jackie Biolay, directeur d'hypermarché, il répond à Alain Rivoli de Martinique Première.
Comme la population augmente dans nos surfaces de vente, la fréquentation devient de plus en plus importante. Et malheureusement, les vols également continuent à progresser. Et ben, au niveau des vols, les interpellations que nous avons se situent entre 8 et 10 par jour, notamment pour la période des fêtes, oui. Eh bien, ce qui est en volé actuellement, je dirais pour la période du mois de décembre, c'est surtout les liquides, avec le champagne, le whisky, les ponches, et également les lambis, les oursins, tout ce qui a de la valeur, supérieure, à plus de 30 euros.
Ce sont des jeunes ou bien c'est tout âge ?
Oh, c'est tout âge. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout âge.
Des propos recueillis par Alain Livoury de Martinique Première. Et pendant ce temps-là, en Guadeloupe, la gendarmerie tente de mettre en place des dispositifs pour assurer au mieux la protection des commerçants. Les gendarmes iront, dès le mois prochain, à leur rencontre des mesures qui viennent renforcer celles qui sont déjà en place. Les explications du commandant Frédéric Sautron, chef d'escadron de la compagnie de Pointe-à-Pitre.
Dans le cadre de cette complémentarité, nous serons plus à même à avoir des renseignements plus ciblés sur des menaces potentielles qui peuvent peser, qui ne seront remontées par le commerçant. Un exemple concret, un commerçant voit des jeunes ou des voitures venir régulièrement en repérage à proximité de son établissement, pourra nous donner des éléments utiles où on pourra infirmer, confirmer ou agir. La vigilance, la participation et l'interaction. Voilà les trois principes.
Éric Jalton, le député de la première circonscription de la Guadeloupe, interpelle la ministre des Outre-mer, Erika Barrett, suite au rapport du contrôleur général des prisons. Un rapport qui pointe du doigt l'utilisation du créole au centre pénitentiaire de Fresnes, en banlieue parisienne. Une langue utilisée surtout par les surveillants anti-guyanais. Selon la contrôleuse générale, cette langue limite le contrôle hiérarchique et donne aux personnes détenues un sentiment d'incompréhension des décisions qui les concernent. Un point de vue que ne partage pas donc le député Éric Jalton.
C'est une discrimination, c'est une stigmatisation et une discrimination vis-à-vis du créole, la langue créole, hein, qui est reconnue par les lois de la République, et vis-à-vis de nos amis guadeloupéens, martiniquais, guyanais, j'en passe, qui sont nombreux gardiens de prison, pas seulement à Fresnes, et qui ont besoin plutôt de soutien, d'encouragement, et non pas d'être stigmatisés de façon absurde pour un contrôleur général des prisons. Donc le gouvernement ne doit pas suivre cela, ce rapport, dans une période de crise, on n'a pas besoin de ça.
Éric Jalton répondait à Guadeloupe Première. Excellente journée.
Merci Edwige Saint-Thomas, excellente journée à vous aussi. Merci aussi à Jonathan Brady à la réalisation de cette émission. Une émission que vous pouvez bien sûr retrouver comme tous les jours sur notre site internet www.rfi.fr. RFI, il est 14h30 ici à Paris, 8h30 à Port-au-Prince. Tout de suite, l'actualité internationale en 3 minutes, c'est avec Jeanne Bartoli. Très belle journée à tous sur la Radio du Monde.
RFI, la sélection du mois.
Vodou Game. The Bongo Hop et Nidia Gongora.